Bonjour à tous, de retour sur la chaîne Basket Session. Nouvel épisode du CQFR. Shai, 7 matchs au programme la nuit dernière. On peut peut-être commencer avec la victoire des Timberwolves contre les Clippers, 118 à 100 à Los Angeles, avec un grand Anthony Edwards. On sait que Karl-Anthony Towns est absent. Il sera absent au moins 4 semaines. Il a déjà été opéré. Il sera réévalué dans 4 semaines. Ce n'est pas dit du tout que les Timberwolves puissent compter sur lui sur la fin de saison et même en playoff. Mais en attendant, Anthony Edwards est en mode patron. Il a sorti 37 points, 8 rebonds, 4 passes. Très bonne défense aussi au passage. Ça ne se lit pas trop dans les stats, mais ouais. Il a bien défendu. Et donc, victoire, comme je disais, des Timberwolves à l'extérieur.
Et ils ont été menés, ils ont compté jusqu'à 22 points de retard. Donc, gros comeback des Wolves.
Au début, cela
dit. Exactement. Donc, ça laisse le temps de... On sait que dans la NBA de 2024, on peut facilement renverser une vingtaine de points de retard, mais... Les Wolves ont eu ce mérite-là de ne pas se laisser enfoncer contre une grosse équipe quand même. Et y a pas, donc tu fais bien de souligner le gros match d'Anthony Edwards qui a drivé jusqu'à plus soif. Quoi. Et il leur a vraiment fait mal dans ce registre-là. Mais il y a aussi eu la perf de Nickeil Alexander-Walker qui fait son meilleur match de la saison avec 28 points. Et les Wolves ont aussi profité malheureusement de la blessure de Kawhi Leonard touché au dos. En cours de match, je pense qu'il sort entre le premier et le deuxième carton.
Il a joué tout le premier carton et après il est sorti.
Et il a quitté la salle même, apparemment, en cours de deuxième carton. Alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'était pour recevoir des soins spécifiques immédiatement, mais apparemment il a quitté la salle au cours du match. Et ça a évidemment été trop compliqué à gérer pour les Clippers et les Wolves qui, après deux défaites de suite, qui se sont bien repris dans la course à la première place à l'Ouest.
Non, c'est que les Clippers, c'est pas la même équipe sans Leonard. Ils menaient de 13 points quand Kawhi y sort. Évidemment, ça change la donne. Paul George et James Harden sont deux All-Stars. Paul George est même un super joueur, mais c'est pas la même force de frappe offensive, je trouve, que Kawhi Leonard, qui a vraiment, notamment au niveau du physique, c'est un physique beaucoup plus dur à contenir que celui de Paul George, même si Paul George est grand. Il a une puissance, Kawhi Leonard, qui généralement pose de gros problèmes. Mais oui, tu l'as dit, belle victoire des Timberwolves. Concurrents directs, je pense que là ils sont quasiment, alors non seulement ils sont encore en course pour la première place, ils sont troisième, ils ont une défaite de plus que le tandem OKC-Denver qui est à 45-20, les Minnesota est à 45-21, mais au final les Timberwolves sont quasiment sûrs de finir dans le top 3 à ce stade de la saison. Voilà, ça va leur assurer l'avantage du terrain au moins au premier tour des playoffs.
C'est énorme, ça valide une belle saison parce qu'on savait, enfin on se disait qu'il y avait moyen qui... Je pense qu'on les voyait peut-être plus autour de la... entre 5 et 10 pour faire très très large. On les voyait bien à la lutte pour le play-in dans tous les cas. Mais ça valide une très très belle saison quoi qu'il arrive. Et elle peut être encore plus belle s'ils finissent premier à la fin.
Allez, on continue avec par exemple la victoire des Kings.
Allez, après, à la limite, on peut. Enfin, c'est ce que je me disais, hein, mais vu qu'on parlait de Minnesota et qu'il y avait la lutte pour la première place.
On peut parler d'OKC.
On peut parler d'OKC parce que ils ont vraiment eu des difficultés contre les Pacers et ils ont perdu ce match.
Défaite d'OKC contre Indiana, 111 à 121 à Oklahoma City. Alors, il manquait Jalen Williams. Il s'est blessé l'autre fois à la cheville,
tu me dis
pas de bêtises. Évidemment, son absence s'est fait ressentir. Alors, il y a 30 points, 10 rebonds, 5 passes de chez Gilus Alexander, mais il a beaucoup shooté, 27 tirs. Il a été sous les 50%, ce qui ne lui arrive pas souvent. Et donc, je le disais, défaite contre des Pacers qui ont été très rapides, mais aussi très bons en défense par moment. 18 points, 12 passes de Tyrese Haliburton, 18 points, 11 rebonds de Pascal Siakam, c'est les deux doubles-doubles. 24 points de Miles Turner et belle victoire d'Indiana.
Ouais, ils ont fait le match parfait, les Pacers, parce que pour battre OKC, surtout là-bas, il faut être très adroit et il faut réussir à verrouiller des défensivement, ce qui n'a pas été le fort des Pacers cette saison jusque-là, mais là, sur ce match-là, ils ont été vraiment, vraiment, vraiment très, très bons. Indiana fait un beau rapproché au classement, en plus. Et j'ai bien aimé le match de Miles Turner, 24 points, et je crois que sur les trois derniers matchs, il est à 14 rebonds de suite. Il est plus très loin du record de contre pour un joueur des Pacers, toujours détenu par Jermaine O'Neal, nombre de contre en carrière. C'est ce que j'appelle un match parfait pour les Pacers parce qu'il y a toujours cet talent offensif qu'on leur voit depuis le début de la saison et en même temps t'arrives à limiter OKC qui est quand même une forte attaque et même sur les pourcentages hein, je pense que ça se voit, ils shootent à 54% et ils maintiennent OKC à 43%, ce qui est quand même pas mal.
4 contre Minnesota, 6 contre Orlando et là 4 contre le Thunder pour Miles Turner.
14 contre 3 matchs,
en mode muraille. Donc, je le disais, Sacramento a battu Milwaukee 129 à 94. Ouais. C'est marrant, dans la session, on parlait du fait que les Bucks se la jouent défensif et que du coup, ils vont prendre un bouillon. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Ils ont pris
c'est ce que tu avais annoncé. Je me souviens, tu l'as dit. Tu as dit les Bucks vont essayer de défendre.
ils prennent une grosse pilule, 129-94, 29 points, 7 passes pour De'Aaron Fox, 22 points, 11 rebonds, 8 passes pour Domantas Sabonis, 25 points de Malik Monk en sortie de banc, notre favori pour le 6e homme de l'année. Et ouais, grosse défaite des Bucks, c'est vraiment le jour et la nuit, cette équipe, il n'y a toujours pas Chris Middleton. D'un match à l'autre, c'est compliqué Milwaukee quand même.
C'est les montagnes russes, c'est ça.
Pas de régularité défensive.
Et ce qui est marquant dans ce match-là aussi, c'est que les Bucks avaient quand même pris pour habitude de battre les Kings. Ça fait 8 ans et ça faisait 16 matchs qu'ils n'avaient pas battu les Bucks, dans un match NBA. Et c'était une des plus longues séries actives entre deux franchises, avec l'une qui arrive pas du tout à battre l'autre.
C'était la plus longue série active.
C'était la plus longue série active, voilà. Et puis, il n'y a pas vraiment une match. Hein. Fox et Sabonis ont mené le truc tranquillement et puis... Ils ont vite pris le large et Yanis fait 30 points, 13 rebonds, mais ça n'a pas du tout eu d'impact. Et Lillard shoot à 2 sur 12. Voilà.
Ouais, les Bucks ont été super maladroits.
Non, mais juste pour dire, parce que je l'ai revu tout à l'heure, il y a eu le gros dunk d'André Jackson Jr. à la fin, c'était leur seul petit lot de consolation où il dunk après sur une claquette assez ouf. Je sais pas à quelle hauteur il est, mais c'est la seule action positive quasiment des Bucks cette nuit dans ce match.
C'est son seul panier du match, mais je disais les Bucks très maladroits de loin, 7 sur 39 à 3 points. Ça explique l'écart aussi violent, c'est-à-dire que c'était pas un match défensif du coup, effectivement, mais c'était un match où il fallait mettre des 3 points et les Bucks ont eu vraiment aucune adresse extérieure, alors qu'à l'inverse, les Kings en ont mis 18 sur 40. Donc à partir de là, ça fait vite un écart. Ouais. On peut continuer avec le match des Spurs, le match de Victor Wembanyama. Petite nuit pour Victor Wembanyama. Alors, il fait quand même 13 points, 10 rebonds, 6 passes de contre. Mais il a été beaucoup gêné par la défense agressive des Rockets. Victoire de Houston à San Antonio. Courte victoire, 103-101. Les Spurs, ils perdent de peu avec un Vassell qui a 6 points et un Wembanyama à 13 points. Leurs deux meilleurs joueurs offensifs ont été mis en difficulté par les joueurs d'Ime Udoka.
C'est intéressant parce que... Victor Wembanyama après le match donc ils lui ont posé la question parce qu'il s'est mangé des prises à deux, parfois à trois dans tous les sens. C'était très très agressif. De toute façon, contre Houston cette saison, il y a toujours eu des matchs compliqués pour lui, mais par contre il a remercié les Rockets parce qu'il a dit que c'était très très instructif pour lui et que ça pouvait du coup ressembler, ça lui donnait un avant-goût de ce à quoi il aurait le droit quand il jouerait des matchs de playoff. Et la défense très agressive des Rockets l'a franchement bien gêné, particulièrement en début de match où il a eu du mal à se mettre dedans. Et les Spurs sont quand même dedans. Et ce que Popovich a dit à juste titre après, c'est que dans un match où l'adversaire fait ça à ton meilleur joueur, il faut que les autres soient au rendez-vous. Sohan a été au rendez-vous, il met 21 points, mais Vassell a eu des difficultés aussi contre Dylan Brooks et sa bande de gangsters dans un match comme ça, où ils ont été très très agressifs et c'est à leur crédit, hein. Et c'est des bons défis aussi pour Victor, c'est un bon apprentissage, je pense.
Ouais, bah Dylan Brooks, justement, il a beaucoup défendu sur Victor, il y a aussi Jason Tate. De toute façon, Victor, on a vu que les adversaires qui le dérangent le plus, en tout cas pour l'instant en NBA, c'est justement les petits, mais très costauds, ceux qui sont capables de résister, qui ont un centre de gravité bas tout en étant puissants, des Draymond Green, des Dylan Brooks. C'est des joueurs qui vont le gêner. Ils vont le déstabiliser, il n'a pas la puissance physique pour vraiment les punir, donc du coup il se retrouve presque obligé de jouer loin du cercle face à ces mecs-là, mais c'est des mecs suffisamment mobiles. Voilà, ça donne des soirées comme ça où il met 13 points à 5 sur 12, 2 sur 7 à 3 points, tu vois, je disais, il prend 7 3 points sur ses 12 tirs, il n'y a qu'un seul lancer franc, il ne peut pas provoquer de faute, il est sorti de la raquette, c'est le paradoxe en fait, si en lui mettant un petit, tu le pousses un peu en dehors de la raquette. Après, évidemment, les prises à deux, prises à trois, ça aide. Il fait quand même 6 passes décisives. Bon, un soir sans où c'est 13-10-6, ça reste correct.
Avec un plus-minus positif, hein, il est à plus 5. Hein. Donc, c'est juste que maintenant, ses standards sont assez élevés. Maintenant, le dernier mois qu'il a effectué avec des énormes perfs, son standard est très, très élevé. Mais là, si ça, c'est le plancher, c'est la perf plancher de Wembanyama quand il est en difficulté, puisque même lui l'a avoué, c'était très physique et assez compliqué, mais Ça reste un match où il est en positif au différentiel, où il fait un double-double avec 6 passes en plus, 2 contre. C'est ça qui est prometteur aussi avec lui, c'est que dans ces matchs où il va apprendre, il est quand même dans des stats assez, pour le commun des mortels, comme je dis toujours, ça reste très très appréciable quand même.
Boston a écrasé Utah 120. Enfin, non, écrasé, non, c'est pas. Enfin, non,
Bah,
mais j'exagère.
ils sont promenés quoi, ça va.
Ouais, mais enfin, c'est quand même vers la fin qu'ils ont été. Enfin, c'est dans le dernier quart-temps qu'ils ont accéléré, mais victoire 123-107. C'était une équipe de Boston privée de plusieurs joueurs. Il manquait Porzingis, il manquait Brown, il manquait
Alors
Horford.
fort,
Il y avait Luke Kornet et Sam Hauser dans le 5 majeur. D'ailleurs, les deux ont été plutôt bons, enfin intéressants. 14 points pour Hauser et 12 points, 9 rebonds, 6 passes pour Luke
ouais.
Kornet.
Quand t'as dit ça, je dois pas être réveillé, mais j'ai entendu Luke Kornet et Sam Hauser, genre il y avait sa mère avec lui dans la raquette, j'ai eu un moment d'absence, ouais.
Nouvelle technique de défense. Mais du coup, les Celtics sont accélérés sur la fin pour prendre le enfin, pour s'assurer la victoire. Il y a surtout eu 38 points de Jason Tatum qui a haussé son niveau de jeu en l'absence des joueurs que j'ai cités. Voilà, Tatum qui met 38 points et la 51e victoire de la saison pour Boston.
Ouais, Derrick White qui ajoute 24 points. Les deux se sont un peu chargés des affaires courantes. C'était pas un match ultra simple avec les absences, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas, ils les ont pas écrasés, mais c'était quand même. Ils sont un peu promenés quoi. Ils ont pas, ils ont maîtrisé le match. Je les ai pas trouvés en difficulté.
26 points et 6 passes pour le rookie Keyonte George, d'ailleurs, qui fait plutôt une
Alors ce
bonne saison.
gros début de match. Je crois qu'au premier, à la fin du premier, il était à 14 points ou 13 ou 14 points. Mais ouais, très bonne. On n'en parle pas parce que Utah est pas très très médiatisé, c'est comme ça, mais c'est t'as raison, il fait une bonne saison rookie.
Les Knicks ont écrasé les Sixers, là on peut parler d'écraser. 106 à 79, c'est la deuxième fois que Philly met que 79 points contre New York. Alors, la première fois, ça avait marché parce que New York en avait mis 73, mais là, il y en a eu 106. Avec le retour d'OG Anunobi, enfin, après sa blessure au coude, il a manqué 18 matchs.
18
Là,
matchs.
Anunobi revient, il a été ovationné. Les Knicks, dans la foulée, gagnent assez facilement. 20 points, 19 rebonds et 10 passes pour Josh Hart, qui est vraiment le meilleur arrière-rebondeur de la ligue, ou le meilleur ailier rebondeur de la ligue. Un quatrième triple-double de la saison pour Josh Hart, c'est assez inattendu. Et je le disais, victoire des Knicks. Et du coup, le bilan des Knicks avec Anunobi, 13 victoires, 2 défaites.
Eh ouais, bah le retour va. De toute façon, tous les retours vont faire du bien aux Knicks. Ils étaient complètement. C'était l'hécatombe, hein, entre des petites blessures et des trucs plus sérieux. Là, ils avaient et Jalen Brunson et OG Anunobi. C'était forcément plus simple contre des Sixers qui sont. Parce que là, il y avait Tyrese Maxey. Nico Batum était là aussi, mais en sortie de banc. Enfin, ils récupèrent un peu de monde, mais c'est quand même très compliqué. Parce que autant les 79 points de l'autre jour avaient suffi à battre les Knicks, autant dans un match normal de basket, ça peut pas suffire en NBA aujourd'hui. Et là, oui, les Knicks l'ont largement emporté. Et en plus, ça leur permet de conforter la quatrième place, que ça aussi, c'est une des luttes intéressantes dans la conférence Est pour la fin de saison. Et ouais, en voyant Josh Hart, je me suis dit que c'était. Enfin, les fans des Knicks, je pense qu'ils sont vraiment ravis cette année parce qu'ils ont récupéré encore des joueurs. Enfin, ils peuvent compter sur des joueurs qui incarnent vraiment les valeurs qu'ils aiment bien. Je parle des fans
Ouais.
des Knicks les plus anciens, on va dire. Bon, s'il y a des fans récents, je suis pas sûr que le côté tough et tout les intéresse particulièrement. Mais c'est dans l'identité de la ville, c'est un peu l'ADN de ce jeu quand même basé sur la défense, la dureté. Et, bah, tu vois des mecs comme Josh Hart qui s'arrache au rebond, qui prend 19 rebonds. Voilà, avec ces joueurs-là, même Anunoby, Brunson, c'est. Je trouve qu'au moins, peu importe ce que fera New York, déjà avoir réussi à. Ça, c'est au crédit de Leon Rose, quelque part, et un peu du staff qui était avec lui, mais avoir redonné cette fierté aux fans des Knicks, parce que les mecs sont fiers. Alors, on les voit pas forcément, on voit pas toujours les scènes où ils sont devant le Garden en train d'hurler des trucs, qu'on aime bien voir, c'est marrant, mais ils sont globalement très contents de cette équipe et elle les représente bien. C'est surtout ça qui. Ils sont pas si obsédés que ça par l'arrivée d'une star. À un moment, ça a été le cas. Ils ont été un peu. Séché par le choix de KD à l'époque de choisir Brooklyn et tout ça, mais je pense qu'ils préfèrent, tu demandes aux fans des Knicks, ils préfèrent avoir une équipe comme ça de
Ouais,
soldats
de
hyper durs qu'un mec avec une équipe avec une star ou deux qui représentent peut-être moins la ville. Donc là, c'est l'équipe est à l'image de la ville et de l'équipe.
Enfin, je pense qu'ils seraient contents d'avoir Kevin Durant, mais je vois ce que
Oui.
tu veux dire. Ils veulent une équipe dure. En fait, ils veulent pas une équipe flashy. Ils veulent pas forcément une
Exactement.
super team absolue. Ils veulent qu'il y ait des guerriers. Cette équipe-là leur plaît beaucoup. Si tu rajoutes une superstar dans cette équipe-là, tout en gardant Brunson, voilà, c'est pas pour taper sur Randle, mais si tu arrives à échanger Randle et un ou deux autres mecs contre une star qui pourrait prendre la place de Randle, ça serait quand même une équipe assez incroyable avec Anunoby, Josh Hart, Hartenstein, tous les guerriers que tu as là, je sais pas, si tu mets Mitchell Robinson, Julius Randle et trois picks et que tu arrives à avoir une star pour ça, ça donnerait une équipe des Knicks vraiment, vraiment très sympa. Mais elle est effectivement très intéressante à suivre, cette équipe de New York. J'ai hâte de la voir en playoff et j'espère qu'elle sera au complet et qu'elle aura le temps un peu de prendre ses marques, de reprendre ses marques juste avant les playoffs.
Pareil.
Allez, on passe au dernier match de la soirée. C'était la grosse affiche entre Memphis et Washington. On a gardé le meilleur pour la fin. Victoire des Grizzlies. Je ne suis pas surpris que les Grizzlies aient gagné. C'est quand même une bien meilleure équipe que Washington. Ils ont gagné deux fois plus de matchs que Washington cette saison. Victoire 109 à 97. Avec les 24 points, c'est très Jamison.
Très Jamison.
Très Jamison. 27 points donc pour Jamison. 19 points pour JJ Jackson, qui lui aussi, de toute façon, cartonne sur cette fin de saison avec des joueurs improbables du côté de Memphis. On peut parler de Bilal. Bilal, 11 points, 5 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, un contre assez extraordinaire.
Et quel contre ?
Ouais, quel contre. Il a juste manqué d'adresse, en fait. Il finit à 3 sur 12. Il a pris 10 tirs à 3 points. Il en a mis 3. Il manquait un peu d'adresse, mais grosse activité, je vais dire ça.
Toujours, de toute façon, c'est un pléonasme avec Bilal Koulibaly. Quand il est là, tu sais qu'il y a de l'activité, tu sais qu'il y a de la défense. Après, l'adresse, c'est un peu variable, c'est normal, c'est un rookie. C'est essentiellement des tirs à 3 points. Mais c'est la raison pour laquelle tu peux regarder un match des Wizards. Quand il est là, tu sais qu'il va se passer des choses de ce genre. Et l'action, l'action est incroyable. Bah, c'est face à JJ Jackson, justement, qui le cross, qui réussit un super cross sur lui, et tu te dis, bah, c'est bon, il part en drive et c'est terminé, et ça va faire top 10, mais en faveur de Jackson. Et Bilal, là, il se redresse à une vitesse assez surnaturelle et il va le scotcher derrière quelques mètres plus loin. C'est une magnifique action défensive de sa part, et ça montre quel défenseur terrifiant il peut être. Il est déjà, je pense que c'est déjà un très très bon défenseur. Je veux dire, il serait dans une équipe compétitive. Ses coachs diraient que pour un rookie, il est déjà très très bon en défense et il aurait du temps de jeu, je pense. Mais voilà le potentiel qu'il peut avoir. C'est un peu comme Ozar Thompson. C'est des garçons qui ont déjà le physique, le potentiel, le cerveau pour être des très 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 forts défenseurs à l'avenir.
Yes, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment un potentiel intéressant chez ces garçons et notamment chez Bilal. On va peut-être se laisser là-dessus, Chai.
Absolument.
Voilà, c'était un CQFR, on est revenu sur tous les matchs. On se retrouvera demain pour un nouveau CQFR, évidemment. Aujourd'hui, pas d'autres rendez-vous sur la chaîne, mais vous pouvez toujours retrouver le podcast. D'ailleurs, on n'a pas dit pour Rudy Gobert. Donc, le podcast est sur Rudy Gobert, un podcast fait par Théo et Chai. Et Rudy Gobert qui est sorti sur blessure, hein, blessé touché aux côtes en fin de match lors de la victoire des Timberwolves.
Ouais, il a dit qu'il avait du mal à respirer après. Alors, les examens n'ont pas révélé de fracture, a priori, donc c'est pas, ça va, mais ça le gênait pas mal. Donc, peut-être des côtes fêlées. Je ne sais pas si ça lui fera manquer un match ou quoi, mais c'était douloureux après le match, en tout cas.
Yes. Bon, allez, on va se laisser là-dessus.
Ouais.
Bonne journée à tous. Ciao, ciao.
Ciao, bonne journée.